RFI 23h, à Paris 22h en temps universel.
24h en France sur RFI.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité française.
Charlotte de Rouen.
François Bayrou a dégainé ses deux premiers 49-3 à l'Assemblée nationale. Le parti socialiste a annoncé qu'il ne voterait pas la censure. Le Premier ministre espère donc pouvoir faire définitivement adopter le budget dans les prochains jours. 4 ans de prison, dont 2 fermes pour le réalisateur Christophe Ruggia, reconnu coupable d'agression sexuelle sur Adèle Haenel. Les buralistes devant l'Assemblée nationale aujourd'hui pour dénoncer l'explosion du marché parallèle de cigarettes. Et puis Martin Fourcade renonce à prendre la tête du comité d'organisation des Jeux Olympiques d'hiver qui doivent avoir lieu dans les Alpes en 2030. C'est l'épilogue de plusieurs mois de désaccord. À suivre également dans les 20 prochaines minutes sur RFI, le dernier opus du duo Terre Noire. Les deux artistes seront nos invités. Et puis à la une du journal de l'Outre-mer, les élus de la Nouvelle-Calédonie à Paris pour plusieurs réunions avec le Premier ministre et le ministre des Outre-mer.
24 heures en France.
C'était donc attendu. Le Premier ministre François Bayrou a engagé ce lundi la responsabilité de son gouvernement pour faire passer 2 textes budgétaires, utilisant donc à 2 reprises l'article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le budget de l'État, puis sur le budget de la Sécurité sociale, avec un objectif pour François Bayrou, obtenir enfin l'adoption de ces textes de loi et avoir bouclé ce dossier d'ici 10 jours. Le chef de gouvernement a des raisons d'espérer puisque le Parti socialiste, contrairement à ses autres partenaires du NFP, du Nouveau Front Populaire, annonce ne pas voter les motions de censure déposées dans la foulée. Récit de cette journée à l'Assemblée nationale avec Victorien Villaume.
François Bayrou n'en avait pas fait mystère et c'est désormais chose faite.
J'ai l'honneur d'engager, en vertu de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, la responsabilité du gouvernement.
Un mystère, il y en avait un en revanche. Autour du Parti Socialiste, verdict après le Bureau National du Jour. Malgré des concessions non suffisantes, le Parti de la Rose est contre la censure. Le député Laurent Baumel.
Notre problème n'est pas de faire durer la Macronie. Si on fait tomber ce budget, la France n'a pas de budget. Il y a toute une série de crédits, de dotations qui n'arrivent pas dans les territoires et n'arrivent pas dans les associations.
Le Rassemblement National, de son côté, compte entretenir jusqu'au dernier moment le suspense. Julien Odoul.
On n'est pas des excités, on n'a pas la censure compulsive. On regarde uniquement selon l'intérêt de la France et des Français.
Mais le parti d'extrême droite, de fait, perd son pouvoir de censure. Et cette période de sursis qui se profile soulage les députés du socle commun, comme Prisca Thévenot.
C'est une bonne nouvelle pour la France. Nous pouvons enfin mettre des budgets derrière les politiques publiques que nous voulons mener et conduire.
Sauf rebondissement, les 66 députés PS vont respecter la décision du Bureau national de ne pas censurer. Un tournant qui provoque la controverse au sein de la coalition de gauche.
Victorien Villaume à l'Assemblée nationale et donc les motions de censure du NFP, enfin de la France insoumise plus précisément, seront examinées à partir de mercredi à l'Assemblée nationale. Ce sont les premiers mots de l'actrice à la sortie de l'audience d'Adèle Haenel après que la justice ait reconnu Christophe Ruggia coupable d'agression sexuelle portée sur elle lorsqu'elle avait entre 12 et 14 ans. L'écoute.
Ce que je disais dehors, c'est que je voulais vous remercier en fait, je l'ai dit mais j'étais un peu assaillie, juste merci à toutes et tous d'être venus et de faire avancer les droits humains tout simplement par votre présence et le fait que voilà qu'on laisse pas tomber quoi. Merci beaucoup. On est ensemble en fait.
Adèle Haenel, aujourd'hui, devant le tribunal à Paris, cette affaire, on s'en souvient, avait ouvert la voie au MeToo du cinéma français. Le réalisateur Christophe Ruggia est donc condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes à effectuer sous bracelet électronique pour agression sexuelle sur mineur, près de 25 ans, donc, après les faits. Ses avocats ont aussitôt fait savoir qu'ils feraient appel de cette décision. Ses avocats avaient plaidé pour la relaxe de leur client, Marie Cazadebet.
Durant son procès, Christophe Rougia s'est défendu d'avoir eu de l'attirance pour Adèle Haenel qui avait entre 12 et 14 ans au moment des faits. Il voyait dans ses accusations une vengeance pour ne pas lui avoir confié de nouveaux rôles après le film Les Diables. Mais pour le président du tribunal, le cinéaste a clairement profité de son ascendance sur la jeune fille, une conséquence de la relation instaurée sur le tournage. Un tournage en 2001 au cours duquel le comportement déplacé du réalisateur, presque quadragénaire à l'époque, avait créé le malaise. Les agressions sexuelles avaient commencé après, au domicile du cinéaste chez qui Adèle Haenel se rendait pour soi-disant préparer la promotion du film. Elles se multiplieront pendant plus de 2 ans. C'est dans les colonnes du journal Mediapart que l'actrice accuse pour la première fois son agresseur en 2019. Le parquet s'auto-saisit de l'affaire. Quelques semaines plus tard, après son audition, Adèle Haenel décide finalement de porter plainte. Elle ouvre ainsi la voie à de nombreuses autres comédiennes victimes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu du cinéma. Mais Adèle Haenel choisit, elle, de mettre fin à sa carrière en 2023, dénonçant la complaisance généralisée du métier pour les agresseurs.
Marie Cazadebé, et puis toujours dans l'actualité judiciaire, le procès du financement libyen présumé de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy entre dans sa 5e semaine. Ce lundi, le tribunal s'est penché sur un épisode concernant l'un des prévenus absents, Béchir Salé, l'argentier de Mouammar Kadhafi, exfiltré en France après la chute du dictateur fin 2011. Quelques mois plus tard, alors que les premières révélations sur l'affaire libyenne viennent d'éclater et que Nicolas Sarkozy joue sa réélection, Béchir Salé est à nouveau exfiltré, cette fois en dehors de France, avec l'aide de son ami et co-prévenu l'intermédiaire Alexandre Djouri et la participation de Bernard Squarcini, alors patron des renseignements intérieurs français. Le compte-rendu avec Laura Martel.
3 mai 2012, Béchir Salé et Alexandre Djouri retrouvent Bernard Squarcini non loin de la Tour Eiffel. Dans la foulée, Salé s'envole pour le Niger dans un jet affrété par Djouri. La veille, Nicolas Sarkozy avait indiqué que l'argentier libyen, visé par une notice rouge pour des accusations de détournement en Libye, serait remis à Interpol. L'hypothèse de l'accusation est qu'il est exfiltré car il connaît des secrets sur le financement libyen, rappelle la présidente. Rien à voir, selon Alexandre Djouri, il n'y croyait pas, il me disait que s'il existait des preuves, elles auraient été exposées, soutient-il. Quand Béchir Salé a lui déclaré en 2017, Kadhafi a dit qu'il avait financé la campagne, Sarkozy que non, je crois plus Kadhafi que Sarkozy. Mais selon Alexandre Djouri, la seule urgence pour son ami était de répondre aux appels pressants du président Issoufou d'aller à Niamey. Le passeport de Béchir Salé ne cause pas d'alerte sur le fichier des personnes recherchées, le vol n'est pas enregistré, il voyage sous votre nom, on a le sentiment que Bernard Squarcini a donné des instructions pour un départ sans encombre, pointe le procureur. Il est parti tranquillou, balayer l'intermédiaire, et si Bernard Squarcini était là, c'est qu'il avait peur de perdre sa source et voulait savoir quand il allait revenir. C'est finalement vers l'Afrique du Sud que part Béchir Salé, où il sera blessé par balle en 2018. Son absence au procès n'a toutefois rien à voir avec des craintes pour sa vie, assure Alexandre Djouri. C'est juste qu'il n'a pas confiance en la justice française.
Laura Martel, cette opération de lutte contre le trafic de drogue entre la France et l'Espagne, 13 personnes ont été mises en examen dans un vaste coup de filet mené par les polices françaises et espagnoles des trafiquants qui alimentaient notamment la Bretagne en cocaïne. 150 kilos ont été saisis, valeur à la revente 2,5 millions d'euros. 3 laboratoires ont aussi été démantelés. Des coups de feu à la gare parisienne d'Austerlitz ce lundi. 2 agents de la sûreté ferroviaire ont surpris une personne qui gravait des croix gammées. Cet individu a sorti une arme qui s'est révélée être factice par la suite et n'a pas obtempéré aux injonctions des agents qui ont donc fait feu. Cet homme a été grièvement blessé. Il est actuellement en état de mort cérébrale. Un voyageur a lui été aussi très légèrement blessé, victime par ricochet des tirs. Le parquet de Paris a ouvert 2 enquêtes, l'une pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Les buralistes en colère un peu partout en France. Ce lundi, face à l'explosion du marché parallèle de cigarettes et de tabac de contrebande, une quarantaine de fédérations départementales ont appelé à manifester dans plusieurs grandes villes. À Paris, ils étaient des dizaines devant l'Assemblée nationale. Reportage d'Aram Meng.
Stop au trafic de tabac. Buralistes, mobilisons-nous. L'État à nos côtés. 40% des cigarettes consommées en France provient du marché de la contrebande. Les buralistes alertent les autorités contre ces fléaux qui, selon eux, impactent toute la société. Karine Guiratel, buraliste à Fontainebleau, en région parisienne.
Vente au pied des écoles, vente aux mineurs. La politique de santé publique que mène la France depuis maintenant 20 ans est complètement bafouée par rapport à ce marché parallèle. Donc ce n'est plus anecdotique. On ne peut plus fermer les yeux et penser que l'augmentation du tabac permet une chute de la consommation de tabac en France.
Les fumeurs ne fument pas moins avec la hausse du prix du tabac. Ils s'approvisionnent autrement. Amio Ahmed est buraliste à Paris 18e. Et délégué pour la Fédération des buralistes d'Île-de-France.
J'ai vu le trafic et le marché illégal de cigarettes augmenter en même temps que le prix du paquet. On a un paquet chez le buraliste à 13 euros, il se vend à 5-7 euros dans la rue. Donc en fait, on pousse juste nos concitoyens à aller se fournir sur un marché illégal avec des nuisances sonores pour les riverains et des mafias qui squattent les trottoirs et qui troublent l'ordre public.
En France, l'achat de tabac de contrebande est interdit et passible d'une amende de 135 euros.
À Rambeng, c'est l'épilogue de plusieurs mois de tensions dans l'organisation des Jeux olympiques d'hiver. Ils se tiendront dans les Alpes en 2030 et Martin Fourcade faisait figure de favori pour être le président du comité d'organisation de ces JO. Mais ce lundi, coup de tonnerre, le quintuple champion olympique de biathlon jette finalement l'éponge, Olivier Pron.
Un renoncement qui fait l'effet d'une bombe. Le multiple champion olympique de biathlon ne souhaite plus devenir l'homme fort de ces Jeux d'hiver 2030 pour, je cite, ne pas sacrifier ses convictions. Martin Fourcade évoque des désaccords trop nombreux comme la gouvernance, la vision, l'ancrage territorial et il explique dans un courrier adressé aux parties concernées qu'il a donc pris la difficile décision de se retirer alors que la création du comité d'organisation patine depuis l'automne. Elle était d'ailleurs fixée à ce début de semaine mais avait déjà été repoussée au 18 février. Mon ambition pour ces Jeux est clair, ils doivent être en phase avec leur époque, pleinement conscients des enjeux écologiques et ancrés dans la réalité économique de notre pays. Explique enfin Fourcade, connu pour être extrêmement soucieux des questions d'environnement. Cette vision n'est pas partagée par tous les acteurs de ce dossier et je le regrette. Ce retrait est l'épilogue de mois de tensions entre notamment Martin Fourcade, qui avait l'aval du mouvement sportif et de l'Élysée, et l'ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez. Un retrait qui laisse le champ libre a priori à un autre biathlète, Vincent Jay, moins charismatique que Fourcade, mais très impliqué depuis le début de ce dossier des Jeux d'hiver 2030.
Olivier Pron du service des sports de RFI, 23h12 à Paris.
24h en France. Charlotte de Rouen.
Dans l'actualité culturelle, le retour des deux frères du duo Terre Noire, un deuxième disque, Protégé, c'est le nom de ce nouvel opus, 14 titres intimistes qui réactualisent la chanson française avec brio. Le duo Terre Noire est au micro de Lisa Giroldini.
La vie est une farandole, on se fait déchirer la gueule, on en redemande encore, moi j'en redemande encore. Dans mon corps bouillon de feu, je cours comme un chien sur le port, je cours comme le lait sur le feu, je fais comme la vague sur l'aurore.
Théo et Raphaël Herrerias, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Vous êtes de retour avec un nouvel opus, Protégé. Que raconte cet album ?
Protégé, c'est un travail de longue haleine là, qui a pris 2 ans et demi à faire. Après une grosse tournée de notre dernier album qui nous a amené un peu partout en France, on a eu besoin de réancrer les choses et de prendre un vrai temps. Et cet album, en fait, petit à petit, on a découvert que, en fait, il venait parler du rapport à l'autre, du rapport à soi, des territoires abstraits ou des territoires extrêmement tangibles. On s'est dit comment on crée des connexions, en fait, comment on crée des cartes pour pouvoir territorialiser l'imaginaire qu'on a essayé de déployer à l'intérieur de cet album, l'imaginaire de l'intime, l'imaginaire de politique, parce que tout est politique, l'imaginaire du futur, l'enfance, de la maladie, de tout ce qui est dit. Mais en tout cas, ça a été par l'idée de cartographier les choses et de dessiner des territoires.
Musicalement, vous mélangez les genres, l'électronique et l'acoustique, les machines et les instruments à cordes. Ça vous tient à cœur, cette fluidité dans la création musicale ?
Ouais, c'est important que la machine vienne s'hybrider avec des instruments plus réels, plus traditionnels, avec des enregistrements, purs enregistrements d'instruments. On peut passer beaucoup de temps à retoucher des sons de piano qui ont été enregistrés sur notre petit piano, mais qu'on vient boucler, triturer jusqu'à ce que ça devienne un son nouveau, un son neuf, comme un instrument qui n'existe pas. Et au contraire, parfois, c'est Il y a aussi des cordes de l'album que Théo a écrit sur des logiciels qui ont ensuite été rejouées par des vrais instrumentistes. Donc en fait, la machine, elle est vraiment comme une aide, comme un outil. La beauté humaine, souvent, ça passe par des choses, voilà, de la vulnérabilité, des fragilités, du souffle, des mains sur des cordes et tout ça. Et on n'avait pas envie que ce soit un album trop industriel, trop froid. Au contraire, je pense qu'il est chaleureux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'humains qui sont dans les bandes, en fait, dans les enregistrements.
Votre nouvel album évoque des sujets assez durs et graves, comme la maladie, la montée de l'extrême droite, le dérèglement climatique. Pourtant, vous gardez ce ton optimiste.
Il y a une urgence, mais une urgence, elle peut être traversée aussi par un médium qui crée de la joie. On a besoin de se soigner avec la musique. On a besoin aussi de ces énergies-là, d'énergie, de positivité, de lumière. Ensuite, on peut les dire, mais ça dépend à comment on transporte ces idées. Et on a besoin de faire attention aux énergies des gens. Et mettre dans un endroit de noirceur totale aussi, ça peut être très beau, il y a de la musique très très noire, magnifique, mais nous, on ne peut pas vivre avec ça sur le cœur pendant 2 ans. On a besoin aussi de s'entourer de lumière.
J'ai renoncé pour le bien de nos corps, pour le bien de nos villes, de nos vies, vivre sobrement, sans ambition, au sommet d'un monde à moi, libéré des rêves d'enfant, vivre sobrement.
Ça vous tient particulièrement à cœur d'entremêler l'intime et le politique ?
Ouais, c'est important. L'idée de se préoccuper du monde, ça existe dans nos textes et dans notre musique et dans nos actions, notre manière de faire la tournée. En fait, ça rend la vie passionnante quand on considère l'autre face à nous, quoi, et la société. La musique, c'est quand même cet art de démultiplier les liens. Quand on fait nos gestes en tout petit, on est là tout seul. Et puis de s'imaginer que peut-être un jour, ça va comme ça se diffuser, résonner. C'est magnifique comme sensation. La musique, l'écriture, c'est des gestes de transmission qui sont super puissants. C'est pas juste pour faire beau la culture, ça crée des liens entre les gens.
Merci beaucoup.
Merci.
Nous savons pleurer devant la beauté. Pleurer. Nous savons pleurer.
Théo et Raphaël Herrerias, le duo Terre Noire au micro de Lisa Giroldini.
Reportage France.
C'est une statue monumentale du XIe siècle et de plus de 5 mètres à l'origine. Le Vishnu du Mébon occidental, l'un des plus grands bronzes retrouvés à Angkor. Il fait partie des collections du Musée national du Cambodge et représente le dieu hindou Vishnu, arrivé en France en mai 2024 pour des études techniques et en novembre à Nantes pour être restauré. Cette pièce unique sera ensuite présentée au Musée Guimet à Paris à partir du 30 avril. Mais Laurence Théo a eu le privilège de l'observer en avant-première. Reportage.
Il est posé sur un chariot dans une salle du laboratoire art quantique. Le grand Vishnu en impose par sa douceur. On le dirait sur un lit d'hôpital. Seule est exposée la partie supérieure de la statue, comprenant la tête, les deux bras droits et le haut du torse. Le tout dépassant tout de même les 2,20 m de long. À son chevet, Stéphane Lemoine paraît bien petit, tant ce bronze est monumental. Ce spécialiste des métaux participe à la restauration. Il faut d'abord nettoyer du ruban adhésif blanc des limites les petites zones carrées sur lesquelles il faut intervenir.
On voit déjà qu'il y a un état d'encroûtement localisé sur les surfaces corrodées qui retiennent donc du sédiment d'enfouissement et qui nuisent à la lisibilité globale des modelés de l'œuvre. Donc on peut choisir de retirer plus ou moins ces encroûtements, notamment par des moyens mécaniques, afin de tenter de retrouver la surface qu'avait l'objet au moment de son abandon, au milieu du XVe siècle. Il faut imaginer qu'à l'époque, l'intégralité de la surface du Vishnu était dorée. Ce qui veut dire que aujourd'hui il est vert parce que la fine dorure, qui était une dorure appliquée avec du mercure, a disparu très rapidement durant l'enfouissement. Il en reste des parcelles, mais il faut imaginer que cette statue aujourd'hui verte était à l'époque intégralement dorée.
Entièrement dorée donc, le Vishnu flamboyait, mais ce n'était pas tout. Il y avait de la polychromie sur les sourcils, les yeux, la moustache, les lèvres étaient rouges. Trésor du Musée national du Cambodge à Phnom Penh, chef-d'œuvre inégalé de l'art khmer, ce Vishnu couché, qui date du XIe siècle, captive Yannick Lins, c'est la présidente du musée Guimet, elle a fait le déplacement.
Vishnu, en tant que personnalité, était évidemment une des grandes divinités du panthéon religieux du Cambodge et de toute l'Asie du Sud-Est. Donc spirituellement et religieusement, une divinité d'une très grande importance. Et puis, comme c'est le cas dans notre histoire de l'art, les grandes œuvres religieuses sont aussi des grandes œuvres d'art. Et ce grand bronze monumental de ce Vishnu couché qui résidait au milieu du temple que l'on appelle le temple du Mébon à Angkor. C'est aussi symbolique que la Joconde du Louvre.
On quitte à regret ce Vishnu souriant et la sérénité qu'il dégage, mais on pourra le retrouver lors d'une exposition exceptionnelle sur les bronzes khmers. Elle se tiendra au musée Guimet en avril prochain.
Laurence Théo, RFI, 23h19 à Paris, 9h19 à Nouméa.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de la première, c'est une semaine politique chargée pour les élus de la Nouvelle-Calédonie. Semaine peut-être même décisive. Bonsoir Benoît Ferrand.
Bonsoir. Ils sont, en tout cas, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes, tous présents à Paris à l'invitation du Premier ministre, tous venus pour tenter, une fois encore, une fois de plus, d'aller, si possible, au fond des choses. Charlotte Manvi.
C'est le Premier ministre lui-même qui a pris la plume pour inviter les forces politiques calédoniennes à Paris. Dans ce courrier que NC La Première a pu consulter, François Bayrou fixe la date des premières réunions au mardi 4 février sous la forme de bilatérale avec le ministre des Outre-mer Manuel Valls. Les discussions devront, je cite, être approfondies, intenses et aller au fond des choses pour permettre de définir une méthode, un calendrier et surtout le contenu des futures négociations, précise le Premier ministre. Optimiste, François Bayrou indique que si les conditions le permettent, ces négociations devront alors commencer dans la foulée. Mais on le sait déjà, ce ne sera pas le cas. Le FLNKS ayant rejeté le principe de négociation à Paris lors de son dernier congrès de Saint-Louis. En dehors de l'avenir institutionnel, les élus calédoniens seront également invités à discuter de la situation économique critique du territoire. Le gouvernement organisera parallèlement au bilatéral une table ronde sur le sujet avec les ministres concernés, les représentants des institutions de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi les maires et les forces économiques du territoire. Et cette fois, les indépendantistes devraient participer.
On reste à Paris avec la contamination des Antilles et des Antillais par le pesticide de chlordécone. De nouveau, devant la justice, la Cour d'appel administrative réexaminait ce lundi la décision rendue par le tribunal administratif en juin 2022, décision concernant la responsabilité de l'État. En première instance, le tribunal avait reconnu des négligences fautives dans la gestion du dossier, mais pas le préjudice moral et d'anxiété qui peuvent faire l'objet d'indemnisation. Deux points plaidés à nouveau par maître Christophe Léguevac, avocat des parties civiles. Délibéré attendu le 11 mars prochain, écouté à la sortie de l'audience, maître Léguevac au micro de Véronique Nison.
Il y a deux points très importants. Le premier point, c'est que la Cour d'appel semble confirmer les fautes de l'État et même va plus loin que le tribunal en expliquant que ce sont des fautes d'une extrême gravité. Donc ça, c'est un point positif, ça prouve que nous avions raison depuis le début. Le deuxième point sur lequel il y a débat, c'est l'indemnisation. Et là-dessus, nous avons une contestation entre ce qu'on appelle le rapporteur public et notre position. Nous représentons 1280 personnes, hommes et femmes, et le rapporteur public semble dire que seuls les hommes ayant souffert d'un cancer de la prostate ont droit à être indemnisés. Nous contestons ce point de vue, nous estimons que c'est une aberration, que c'est injuste et que c'est même ignoble. Et donc nous espérons que la Cour aura entendu les explications de Maître Bousquet et les miennes pour justement faire en sorte que tous les demandeurs, quel que soit leur sexe, quel que soit leur âge, quelle que soit leur situation, puissent être indemnisés.
On termine avec le classement 2024 des meilleurs lycées de France, classement à lire dans le Figaro. Ce classement est désormais connu. Une fois n'est pas coutume, l'Outre-mer a été pris en compte. Mais pour ce qui concerne la Guadeloupe, par exemple, il faut descendre assez bas dans le palmarès pour trouver trace des établissements du département des Antilles, le mieux classé se situant dans le chef-lieu. Jessie Blanquet, la première Guadeloupe.
Il se trouve à Basse-Terre et comme l'an dernier, le Figaro a placé le pensionnat de Versailles en tête avec 95% de réussite et un impressionnant 73% de mention. Il est suivi de près par le lycée public Charles Couëffin de Bémao qui n'a pas à rougir. Il affiche un taux de réussite de 95% et 60% de mention. À la troisième place arrive ensuite la maîtrise de Massabiel de Pointe-à-Pitre qui engendre 100% de réussite mais qu'avec 66% de mention. Quatrième, le lycée Hyacinthe Bastaro de Marie-Galante. Ce lycée a frôlé la perfection, 98% de réussite et 51% de mention. Le lycée Yves Le Borne de Sainte-Anne truste la cinquième place avec un taux de réussite élevé et des mentions honorables. Par ailleurs, il est à noter qu'à l'échelle nationale, le lycée le mieux noté de Guadeloupe, en l'occurrence le pensionnat de Versailles, est classé 421e. Il est essentiel également de souligner que ce classement ne préjuge en rien de l'engagement des enseignants, de la qualité des enseignements dispensés ou du bien-être des élèves. Il s'agit simplement d'une évaluation basée sur des indicateurs de performance liés à la réussite éducative.
Fin de cette édition. Bonne soirée.
Merci Benoît Ferrand et bonne soirée à vous également.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
C'est une petite glande en forme de papillon. Elle a un impact énorme sur notre santé. Caroline Paré évoque aujourd'hui les dérèglements de la thyroïde avec son invité.
Docteur Charles Halim, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes endocrinologue, diabétologue dans le centre anti-diabète Marc Sancalé au sein de l'hôpital Abbas Ndao de Dakar. Est-ce que l'on sait pourquoi certains troubles de la thyroïde ont une incidence sur la prise ou la perte de poids?
Nous savons que les hormones thyroïdiennes jouent un rôle fondamental dans la régulation de différents systèmes du corps, notamment que ce soit la régulation pondérale, mais également le bon fonctionnement cardiaque au niveau du système nerveux central et même digestif. Autrement dit, c'est des hormones qui sont extrêmement vitales et importantes par rapport à l'organisme. Donc, en termes de régulation pondérale, effectivement, les hormones thyroïdiennes, du fait de leur action sur le métabolisme de base, en cas d'hyperthyroïdie, donc ça favorise des dépenses énergétiques. Et dans ce cadre-là, on se retrouve dans le versant perte de poids. Bien évidemment, des problèmes cardiaques aussi, notamment des palpitations, des difficultés à respirer, des troubles neuropsychiques. Dans le versant hypothyroïdie, lorsqu'on a des déficits, des carences en ces hormones thyroïdiennes, on se retrouve plutôt à un métabolisme qui est ralenti. Donc, le ralentissement du métabolisme, donc on brûle très peu de calories, donc ça favorisera plutôt une prise de poids. Donc, également sur le système cardiovasculaire, ça entraînera un ralentissement du cœur, ce qu'on appelle la bradycardie, un ralentissement psychomoteur, une somnolence, des tendances à la fatigue, également une constipation sur le plan digestif.
Merci docteur Halim. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de deux maladies oculaires dont la fréquence augmente avec l'âge. Glaucome et cataracte, on va parler dépistage, diagnostic et prise en charge à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
Merci Caroline et à tout à l'heure. C'est ainsi que s'achève cette édition de 24 heures en France. Merci à Valentin Vaner qui m'a accompagné ce soir à la réalisation, à Adrien Delgrange à la rédaction en chef. Dans quelques instants, place à Afrique Soir. Mais d'abord, on fait un petit détour par la bourse à New York.
Le rendez-vous de Wall Street.
Avec Pierre-Yves Dugas.
Après avoir perdu plus de 600 points, le Dow Jones cède seulement 122 points, clôturant à 44 422. L'indice du Nasdaq chute, lui, de 235 points et revient à 19 392. Wall Street n'a comblé qu'une partie du terrain concédé initialement, donc, et ce en réaction à la suspension pour un mois de la surtaxe de 25% imposée par le président Trump au Mexique. En revanche, les surtaxes de 25% sur les produits canadiens et de 10% sur les produits chinois restent en place, ce qui continue d'alarmer les investisseurs, en particulier parce que ces droits de douane et les mesures de rétorsion qu'ils déclenchent auront un effet inflationniste. L'espoir est maintenant que Donald Trump fasse aussi une pause dans ses sanctions contre le Canada, mais cela ne peut se produire que si Ottawa prend des mesures satisfaisant la Maison-Blanche pour lutter contre les migrants sans papier et le trafic de drogue. Les constructeurs automobiles General Motors, Ford, Stellantis limitent leur recul aujourd'hui en réaction à la suspension des sanctions frappant le Mexique. Ces constructeurs disposent de multiples usines au Mexique où ils assemblent tout ou partie de véhicules vendus ensuite aux États-Unis. Or, les surtaxes douanières feraient sérieusement grimper leurs coûts de production. Le baril de pétrole américain regagne moins d'1% et termine en dessous de 73 $. L'euro tombe à 1,0297 $. La perspective d'une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe, porteuse de taux d'intérêt plus élevés pour les États-Unis, favorise le billet vert. Le Dow Jones cède 0,3%, le Nasdaq perd 1,2%.
Écoutez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Bonjour, c'est Juan Gomez. Au Sénégal, le gouvernement versera une première aide financière aux victimes et aux familles endeuillées par la répression des manifestations des dernières années du régime de Macky Sall. Que vous inspire ce geste? Quelles doivent être les prochaines étapes du processus d'indemnisation?
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À demain sur RFI.